France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union pour la raison, la démocratie et les sciences. Une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Aliénor Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en philosophie au CNRS, à l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités, à l'ENS de Lyon. Une partie de vos travaux porte sur la philosophie et l'anthropologie de la nature. Vous êtes responsable de la série « L'écologie » pour un Parlement des savoirs, un bien beau titre, chez Belin. Et vous venez de coordonner un ouvrage collectif intitulé « La bascule climatique » qui m'a semblé particulièrement important et original pour en faire état à l'antenne de l'Union rationaliste. Alors, qu'est-ce qui fait pour vous, Aliénor Bertrand, la particularité de ce livre, La bascule climatique, parmi l'immensité des ouvrages sur le climat?
Alors, ce livre n'est pas un essai et ce n'est pas non plus un texte de vulgarisation. C'est le recueil d'un effort collectif pour éclairer un paradoxe. Tandis que les connaissances du système climatique de la Terre ont connu des progrès sans précédent durant les 40 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre se sont accrues comme jamais.
Mmh.
Et ce constat est valable aussi, à quelques différences près, pour ce qui concerne les sciences de la vie, qui se sont énormément développées, notamment grâce à la génétique, alors même que la destruction du tissu du vivant s'est, de son côté, considérablement accélérée. Alors, il faut savoir que dès 1986, les risques de changement abrupt du climat étaient connus, notamment ceux de la fragilité du système de circulation océanique. Mais aujourd'hui, nous savons que l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère terrestre est de 50% par rapport aux époques qui ont précédé l'industrialisation, alors que ce taux était resté plus ou moins stable durant les 6000 années qui ont précédé et qu'il faut remonter à plus de 4 millions d'années avant le présent pour trouver des taux comparables à ceux d'aujourd'hui. À cette époque-là, l'Arctique était couvert de forêts, le genre Homo n'était pas encore apparu sur Terre. Donc ces données sont spectaculaires. Plus les connaissances ont progressé, et mieux l'ampleur de cette rupture dans les équilibres biogéochimiques de la Terre, et les conséquences qu'elle a entraînées ont été connues. Il s'en faut de beaucoup pourtant pour que ces progrès majeurs dans la connaissance du système Terre est impulsé des réponses politiques à la hauteur des risques encourus. Ce hiatus a fait l'objet de nombreux travaux, mais ce n'est pas vraiment l'objet du livre. Nous avons cherché, quant à nous, à faire un pas de côté en nous défiant des généralisations hâtives et de la reconduction de réponses toutes faites. Et nous avons adopté un parcours singulier en 4 points. Nous avons choisi d'abord de lier dans un même chapitre les éléments de la connaissance du climat et ceux de l'effondrement du vivant, qui sont deux questions traitées le plus souvent séparément.
Absolument.
Nous avons ensuite confié à Anne Blondeau da Silva, qui est écologue et spécialiste de génétique des populations, le soin de documenter les ruptures induites par les modernisations agricoles dans les écosystèmes, qui rompt avec la manière habituelle dont on traite des problèmes de biodiversité. Enfin, nous avons choisi, au moyen de 4 contributions, d'éclairer les verrous et les difficultés épistémiques et sociales de la situation à laquelle nous nous serons confrontés. Et puis, dernier point particulier, nous avons choisi de donner au droit, plutôt qu'à l'économie, la fonction d'invention de régulation nouvelle.
Oui, nous allons y revenir. Donc la place donnée aux sciences dans votre livre incite à penser que ce que vous appelez la bascule climatique est aussi une bascule de la rationalité. Iriez-vous jusque-là? Diriez-vous cela?
Alors, bien entendu, la question de la rationalité en tant que telle dépasse de beaucoup l'objet de notre livre. Mais en un certain sens, oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. La contribution d'Antoine Bouzin et Sylvain Laurent montre bien, par exemple, comment le rationalisme, le centre de gravité du rationalisme, s'est déplacé du monde proprement savant à celui de l'ingénieur, avec un discours qui a lié très fortement l'apologie des avancées technologiques et la défense de la raison.
Mmh.
Et si vous voulez, les progrès de la connaissance, des connaissances sur le climat, et à plus forte raison sur l'effondrement du vivant se sont heurtés de façon presque orthogonale à cette configuration. Il y a toutes sortes de raisons à ce heurt orthogonal, mais ce qui est certain, c'est que les progrès des connaissances du climat contreviennent à une sorte de schéma représentatif qui est né à l'époque moderne, donc bien avant ces 50 dernières années, et qui ont lié les sciences, les techniques et le progrès. Ce ne sont pas des connaissances qui sont porteuses d'applications techniques disruptives. Et tout au contraire, elles mettent en évidence les effets catastrophiques sur la biosphère des dispositifs techniques qui ont dominé depuis la révolution industrielle. Donc assez logiquement, la première question qui est née des progrès des sciences climatiques a été de s'assurer, avec la certitude la plus grande, que le réchauffement que l'on observait expérimentalement, d'abord par la mesure d'élévation du niveau des mers, était bien lié à l'augmentation du CO2 atmosphérique et donc lié à ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle. Il fallait donc d'abord montrer, selon l'expression consacrée, que le réchauffement climatique était bien d'origine anthropique. Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette proposition, de façon à revenir sur ce qui a été au projet de ce livre et à mieux comprendre pourquoi il y a une espèce de fracture dans une certaine figure moderne de la rationalité. Donc, une partie de cette phrase, le réchauffement climatique était bien d'origine anthropique, est susceptible d'une compréhension simple, mais en un sens aveugle. Alors, elle veut dire que le réchauffement observé actuellement ne s'explique pas par les dynamiques anciennes, physiques et biogéochimiques qui ont modelé les différents climats de la Terre. Et ça veut dire aussi que ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui s'accumulent depuis 1750 qui suffisent à expliquer ce réchauffement. La cause du réchauffement, de ce point de vue, est donc dite d'origine anthropique. Mais les sciences de la Terre ne peuvent guère aller plus loin que cette formulation. Comme si l'être humain en général pouvait être une cause, alors que l'être humain en général, c'est une abstraction. Il faut donc faire appel, en toute rationalité, aux sciences historiques et aux anthropologiques, bref, aux sciences humaines en un sens large, pour documenter précisément cette portion de la phrase à laquelle, par définition, les sciences de la nature sont aveugles. Et c'est un défaut de rationalité de faire comme s'il était possible de se passer de ces connaissances historiques et anthropologiques pour comprendre précisément ce que l'on dit lorsque l'on affirme que le réchauffement est d'origine anthropique. Et c'est donc aussi un autre défaut de rationalité de faire comme si, face à ce constat tout à fait nouveau et inouï à l'échelle de l'histoire humaine, on pouvait articuler la connaissance et l'action en se passant des sciences historiques et anthropologiques. Et c'est pourtant ce qui s'est passé et continue de se passer depuis 40 ans. L'action politique réponse à ce constat de réchauffement a été conçue à partir de modèles économiques qui lient les émissions de gaz à effet de serre à des secteurs d'activité émetteurs et qui imaginent divers mécanismes économiques potentiellement réducteurs. Autrement dit, le problème a été pris sans réflexivité d'envergure sur les causes sociales et politiques profondes de ce réchauffement. Et il a été pris en charge en reconduisant et en détassant des dispositifs déjà existants conçus pour toute autre chose, c'est-à-dire, à vrai dire, pour favoriser la croissance économique.
Bien sûr.
D'une certaine manière, cette réponse politico-économique a été trouvée avant que le problème auquel elle était censée répondre soit collectivement posé et déplié. Donc, parler d'une bascule de la rationalité, c'est prendre acte de l'échec de cette manière de traiter les problèmes climatiques et écologiques et appeler à ce travail réflexif, collectif, rationnel, qui permet de réarticuler les sciences exactes, les sciences humaines, et qui permet aussi d'exercer un droit d'inventaire sur les échecs des politiques menées jusqu'ici.
Bien sûr.
Il s'agit vraiment d'une bascule scientifique et épistémique. Et bien entendu, celle-ci emporte avec elle d'autres bascules, comme l'abandon de la croyance irrationnelle par laquelle on a commencé, selon laquelle il existerait un lien consubstantiel entre les nouvelles technologies et la rationalité. Comme l'a montré Nathalie Chouchon dans sa contribution, ce que la rationalité nous impose est d'expliciter pour quelles fins et avec quelles conséquences sont faits les choix techniques et non d'alimenter la course à l'innovation technologique tirée par le profit économique ou inversement de se défier a priori des techniques ou des sciences appliquées. Voilà donc pour ce pourquoi il me semble qu'on peut effectivement parler de bascule de la rationalité.
Alors pourquoi avoir choisi une métaphore, celle de la bascule, pour dire la nécessité de ces transformations?
Alors, comme toujours avec les métaphores, c'est une certaine volonté, disons, de dire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire d'alerter d'abord sur le risque de bascule dans le système climatique de la Terre et aussi de penser la nécessité des transformations politiques en termes de bascule. Le système climatique de la Terre n'est pas un système qui se transforme de façon linéaire, où on aurait simplement une équivalence entre l'augmentation du CO2 et le réchauffement. Il y a, on le sait, des seuils. Et quand certains de ces seuils sont atteints, le système dans son ensemble change soudainement de façon irréversible et peut mener vers des états inconnus. La communauté scientifique s'est entendue pour dire que au-delà du seuil de réchauffement de 1,5 degré Celsius, eh bien, ces points de rupture pourraient se multiplier. Et nous savons aujourd'hui que nous ne limiterons pas le réchauffement à 1,5, contrairement à ce qu'on avait espéré. Notre trajectoire actuelle serait plutôt autour de 3 degrés Celsius de réchauffement. Donc ça, c'est pour l'aspect physique de la bascule, pour pointer du doigt le fait qu'il peut y avoir des ruptures brutales, et qu'il nous faut faire face à cette réalité. Alors, quant aux bascules politiques et anthropologiques, je dirais que le choix du mot s'inscrit peut-être dans notre tradition philosophique profonde, peut-être même le point archimédien de Descartes, à la recherche de quelque chose dont on ne peut douter et à partir de quoi construire quelque chose de nouveau. C'est comme ça que le livre a été conçu, si vous voulez, réaffirmer ce sur quoi nous devons nous appuyer pour faire face à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce sur quoi nous devons nous appuyer, ce sont les sciences, mais les sciences de la nature avec les sciences historiques et anthropologiques. C'est d'une certaine manière surmonter la division du savoir qui s'est opérée au début du 19e siècle. Ce travail est devant nous, mais il faut nous défier des slogans. Surmonter grand partage ou interdisciplinarité, cela ne peut être que des mots. Hein. La réarticulation ne peut se faire sans perte, notamment au sein des disciplines et sous-disciplines qui se sont vouées à accompagner les échecs des politiques actuelles.
On aura compris, Aliénor Bertrand, que si ce livre est tellement original, c'est qu'il s'appuie à la fois sur une très solide culture scientifique et également il réfléchit et pense à tout moment grâce aux sciences humaines, aux sciences sociales, et sans faire l'économie d'une réflexion idéologique. J'avais envie, à l'issue de votre avant-dernière intervention, de reprendre la métaphore esquissée dans votre ouvrage collectif sur l'anthropocène est un concept fictif. Il serait plus juste de parler de capitalo ou capitalocène, ce qui serait à la fois beaucoup plus pertinent pour parler du mode de production destructif de la planète et ce qui donnerait une analyse plus pertinente.
Alors, certainement, vous avez raison. Alors, nous n'avons cependant pas choisi de faire de ce terme de capitalocène le porte-étendard de notre travail. Pour des raisons qui sont des raisons que vous comprendrez aisément, qui sont pas du tout, disons, de la timidité à l'égard de
idéologique
du capitalisme, pas du tout, mais qui serait plutôt, disons, une manière de nous défier de la reconduction des solutions toutes faites à, disons, ces crises qui sont des crises du capitalisme. Solutions qui sont soufflées par l'histoire du XXe siècle. Et solutions qui peuvent être effectivement soit celles de la régulation par des mécanismes de marché, enfin bref, disons que c'est le marché qui serait le lieu de la régulation. ou peut-être, autre solution du XXe siècle, uniquement la planification écologique décidée collectivement avec une idée forte de l'action de l'État. Alors, donc nous avons un petit peu voulu éviter ces pièges-là en regardant ailleurs, et cet ailleurs, c'est le droit. L'idée étant qu'on n'a pas coutume de penser au droit dans cette perspective-là pour plusieurs raisons. D'abord parce que le droit ne fait pas partie de notre culture commune à cause des divisions, des institutions universitaires, ça nous semble réservé aux gens de loi, et aussi à cause de l'idée simple selon laquelle le droit est le reflet des rapports de forces sociaux. C'est là que les choses se passent. Cette idée est exacte, mais elle est trop simple. Le droit n'est pas que le reflet des rapports sociaux, au sens où il ne repose pas en principe sur les mécanismes qui permettent l'accroissement capitalistique, mais il est une manière de codifier, de classer, d'ordonner des relations en faisant valoir des fictions. Et le livre fait le pari qu'à partir de ce socle, il est possible de construire de nouvelles régulations et que, disons, la technique qui pourrait permettre d'y parvenir, eh bien, ce sont des techniques qui sont issues du droit.
Merci. C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Aliénor Bertrand, je vous remercie et je renvoie à ce remarquable ouvrage, La bascule climatique. Le colloque de l'Union rationaliste se tiendra samedi 6 juin. De 11h à 18h à l'École normale supérieure, 45 rue d'Ulm à Paris, dans la salle d'Ussan. Il portera sur le rapport des sciences à la démocratie, un couple à problème. Pour vous y rendre, il faut vous y inscrire auparavant sur le site de l'Union rationaliste. Je remercie en régie Sofiane Aktib et Philippe Baudouin pour la réalisation de cette émission. Je remercie Claire Poinsignon sur France Culture et Nathalie Comte à l'Union rationaliste. Et je vous dis au mois prochain.